Une création.
Blast.
Manuel des terres. Des outils, des récits et de la matière
pour glisser des petits cailloux dans les bottes
et jeter des gros pavés dans la mare agricole.
Une série podcast proposée par Léa Arson et Émilie Serpotion.
Dans la terre d'aujourd'hui, je voudrais le feu, je voudrais la flamme, je voudrais tant de force pour me battre. Je ne me sens pas équipée pour vivre en paix.
Épisode 2, Hymen. Qui a droit à la terre ?
Bien entendu. La hière, la filée et même le sapin. Avec la des ours, on peut faire un pistolet, des articles.
Le crâne de jouer,
les des orties, des pousses de sapin. C'est par là qu'on part. Ah.
Ouais. On va où là ?
On va dans notre future maison.
On est à bord d'un Formule 1.
Est-ce que tu aimes bien ici on parlait de ça avant d'arriver, la géographie, le paysage et tout.
J'adore le fait que ce soit vallonné là comme ça, tu vois. T'sais, en même temps, tu peux voir, tu vois, quand même assez loin. Et en même temps, c'est tellement vallonné. Enfin, j'adore. Tu peux aller tout droit. Ouais, carrément. Et le fait que vraiment ce soit beaucoup morcelé aussi. T'as très peu d'endroits où tu vois des énormes champs, tu sais, sans aucune limite, tu vois. Ouais. C'est toujours morcelé par des petits bois ou des arbres.
Ici c'est plutôt élevage.
Ouais, c'est de l'élevage carrément. Et quand même beaucoup de grandes cultures au service de l'élevage, quoi. C'est là qu'il faut tourner. On est juste à côté de l'église. Au boulin, tac.
Là, on est dans le cœur du bourg, il y a des commerces, des trucs.
Bah, là, on va passer devant. Il y a une petite épicerie, tu sais, genre. Comme dans les quartiers, tu vois, genre une petite épicerie où il y a des trucs, genre des pâtes, tu vois.
Alors. Ça va, je suis pas.
Ouais, t'es très bien. T'es large.
Un horloger, quoi.
Oui, et il est au rez-de-chaussée de notre maison, en fait. Enfin, c'est à lui, ça.
C'est votre maison, là ?
Ah oui, ça, c'est notre maison, oui. Bonjour. Bonjour. C'est beau, hein ?
Oui, très. C'est grand, en fait.
Ouais, c'est énorme. Franchement, c'est pour ça qu'elles se sont dit que c'était un peu fou d'habiter là à deux seulement, tu vois. Et du coup, là, on va monter.
Chez vous ?
Chez nous et chez Jonia, vous allez voir. En fait, il y a une partie qui est à nous et il y a une partie qui est à Jonia.
Nous voilà dans la maison en travaux d'Hymen pour démarrer cette deuxième enquête de Manuel des terres. Hymen a déménagé récemment dans ce coin d'Aveyron avec son fils et son compagnon dans l'espoir d'y trouver un bout de terre et de s'y installer comme productrice de plans maraîchers. Si elle peut sortir de sa situation de locataire précaire, c'est parce qu'avec un groupe d'amis, dont Jonia, qu'on vous présentera plus tard, elles ont acheté ensemble une maison de village. N'ayant pas du tout les mêmes situations, elles ont chacune contribué à cet achat en fonction de leurs moyens, en mettant dans la balance leurs revenus, mais aussi et surtout leurs héritages. Dans ce deuxième épisode, on dézoome un peu de notre focus agricole pour questionner l'accès à la néo-ruralité, prémisse pour devenir paysanne quand on ne vient pas du milieu.
Et du coup, en fait, ça c'est le petit. On a un petit patio aussi, c'est qui donne directement sur la rue là. Voilà.
Et par rapport au projet agricole, est-ce que le fait là d'avoir un habitat, c'est genre un peu comment la première brique, quoi?
Ah ouais, ouf. Bah oui, on s'enracine quelque part. Un des trucs avec le projet agricole, c'est de se dire on trouve de la terre où là on est sûr, on a une zone géographique pour prospecter, demander, tu vois, où est-ce que, enfin,
Et du coup, combien de surface, idéalement ?
2 hectares, c'est bien. On aimerait bien du coup faire des plans maraîchers plutôt annuels en fait. Et on aimerait bien faire un peu d'ornemental peut-être. Moi j'aime bien les plantes un peu pérennes, un peu vivaces et tout. Et du coup pour ça, ça vaut trop le coup d'avoir des pieds mères, de planter des pieds et en fait de bouturer à partir de là. Et pas de devoir racheter chaque année des boutures qui viennent de je sais pas où.
Parce que c'est quoi le type de terre, de parcelle et tout dont tu as besoin toi ?
Bah là il nous faut clairement une parcelle plate. De la prairie, en fait. Mais en tout cas, j'ai un peu l'espoir que ce soit, c'est un peu un truc de réseau parallèle, quoi, qui va faire que. C'est une grosse angoisse pour moi d'aller voir des propriétaires, tu vois, et de leur dire, ouais, je cherche la terre agricole, machin, enfin, tu vois. C'est assez drôle. Une fois, j'ai appelé pour de la terre agricole et la personne m'a dit oui, ah bah super, nanana, vous êtes jeune, vous voulez vous installer, blabla, bah on peut se prendre un rendez-vous et tout. Et puis bah du coup, c'est quoi votre nom ? Et je lui donne mon nom, tu vois. Elle me fait ah, et ben bah écoutez, je vous rappelle. Et elle m'a jamais rappelé. Et elle m'a pas vue en plus encore. Enfin, je me dis si elle m'avait vue, je sais pas, tu vois qu'elle.
Ruralité. Campagne, peur de l'hostilité. Douceur du quotidien, proximité, lenteur. Réseau limité, urbain pour les vacances ou les résidences. Réalité politique distendue. L'enfant dehors.
Ok, bon, juste on fait quand même un petit essai son, si tu peux.
Un essai son ?
Non, mais ça marche bien.
Ok, trop bien. Eh ben, je me présente d'abord, non ? Ouais.
Moi, je m'appelle Imen. Je me suis installée il n'y a pas très longtemps à la campagne et je suis plutôt une citadine. J'ai grandi sur la Côte d'Azur et en ville. On pourrait croire en vrai que c'est un endroit qui est très riche, et ce qui est vrai, enfin en tout cas la Côte d'Azur, c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de thunes et tout, où il y a beaucoup de gens qui ont de la thune. Mais en fait, il y a une très grosse diaspora, notamment tunisienne, quoi. Et du coup, en fait, il y a plein de ghettos, en fait. Il y a plein de petits quartiers, enfin ou de grands quartiers d'ailleurs même, où tous les travailleurs, les femmes de ménage, les maçons, bref, ils sont là-bas, quoi. Et nous, on faisait partie plutôt de ces gens-là. Mais on habitait plutôt en centre-ville. Et en fait, le centre-ville de Cannes, c'est plutôt très vieux, très délabré. Et du coup, c'est plutôt les gens précaires, en fait, qui y habitaient, quoi. Et mon rapport à la ruralité, il est arrivé très tard. Jusqu'à très longtemps, j'avais pas du tout de lien, ni à la campagne, ni au monde agricole. Enfin, au monde agricole, je pensais que j'avais pas de lien. Mais en fait, j'en avais, quoi, d'une certaine manière. C'est juste que je l'ai théorisé plus tard, quoi. Ma mère, elle a travaillé dans l'agricole. En fait, c'était son premier taf quand elle est arrivée en France, quoi. Elle avait 16 ans quand elle est arrivée, avec toute sa famille, quoi. Ses parents, ses frères et sœurs. Ils sont venus pour ça. Mon grand-père, en fait, il a travaillé chez un Français qui avait, du coup, une exploitation agricole à Cannes, quoi, dans le maraîchage. À un moment, ce Français s'est agrandi et il a eu besoin de main-d'œuvre. Et du coup, mon grand-père, il a dit, moi, j'ai de la famille, j'ai ces 6 enfants et une femme et qui sont tous prêts à venir travailler, quoi. Et du coup, il leur a fait le regroupement familial et ils sont tous venus, ils ont tous travaillé jusqu'à ce qu'à un moment, les autorités se rendent compte que les enfants étaient trop jeunes pour certains pour aller travailler. Du coup, ils les ont mis à l'école. Et du coup, il n'y a eu qu'une partie, dont ma mère, qui avait déjà 16 ans et qui pouvait travailler, qui est restée travailler là quelques temps. Ma mère, elle me disait, nous, en fait, les enfants, on n'était pas payés, quoi. En fait, et c'est pour ça que le type nous a fait venir, en fait. Et du coup, elle nous en parlait très souvent. C'est un truc qui a été très présent et tout, dans le début de sa vie en France, quoi. Et c'est ce qui a fait que l'agricole, c'était pas du tout un domaine qui me faisait envie. Ouais, pour moi, c'était vraiment un truc pas chouette et plutôt éreintant et plutôt humiliant. Humiliant parce que dominant, quoi. Et que pas le choix. Hein.
Après le bâtiment et l'industrie, l'agriculture est le troisième secteur à avoir recours à des travailleurs des anciennes colonies du Maghreb, dès les années 70. Comme le grand-père d'Imen, ils sont des milliers de Tunisiens à venir travailler dans les champs français. Ces immigrés utiles, allègrement exploités, permettent le développement de l'agriculture productiviste. Cette politique de recours à des personnes étrangères précaires est loin d'être terminée. Au contraire, elle trouve son prolongement aujourd'hui avec l'embauche massive de travailleurs saisonniers ou détachés qui continuent, dans des conditions bien souvent indignes, de cueillir les fruits et légumes qui atterrissent dans les rayons de nos supermarchés. Imen, héritière de cette histoire d'exploitation, nous raconte les moments marquants de sa trajectoire. Une trajectoire de femme binationale, musulmane, en France.
Moi, j'ai décidé de porter le voile quand j'avais 11 ans. Et en fait, c'est tombé pile. Juste après, il y a eu la première loi sur l'interdiction du voile à l'école, quoi. Des signes religieux, mais on s'est compris, en tout cas. Enfin, c'était clairement une chasse aux sorcières contre les femmes, les filles, en fait, les jeunes filles musulmanes voilées, quoi. Et les enfants, en fait. Moi, du coup, ça m'a mise dans le truc de, en fait, c'est clair. Enfin, je veux dire, là, même à l'école, je peux plus le porter, tu vois. Ça commence déjà méga mal. Je savais déjà qu'il y avait la question de la discrimination au travail, parce que j'ai une mère et qu'avec ma mère, on en parle très clairement, quoi, de ses difficultés et tout ça, quoi. Et puis, je le voyais. Enfin, je veux dire, ma mère, elle porte le voile depuis avant qu'on naisse, quoi. J'ai toujours vu ma mère qui portait le voile, machin et tout. Et à Cannes, c'est hyper facho et du coup hyper islamophobe, tout ça. Et ma mère, c'était la seule maman qui portait le voile, quoi. Du coup, ça a ponctué notre scolarité. On était catégorisés et par les maîtresses et par les autres élèves et tout ça, quoi. Et où on a été consciente de ça hyper tôt avec ma sœur, enfin de ce truc-là, quoi, de se dire en fait, il y a pas d'échappatoire, quoi. Tu vois. Bref, j'ai avancé dans la scolarité, je suis arrivée au lycée, et du coup au lycée, c'était toujours la même continuité de cette islamophobie qui faisait que grossir et tout. On n'avait pas le droit même d'avoir un petit bandeau en fait, quoi. Genre c'était interdiction totale, les capuches, les machins, enfin voilà. Moi je portais du coup des robes longues, et tu sais, là maintenant il y a ce gros scandale et tout, mais en fait à l'époque c'était pas du tout médiatisé. Et du coup ma sœur et moi, quand on a décidé qu'on mettrait des robes longues, mais qu'on enlevait le voile devant le lycée, enfin tu vois, on n'est jamais rentré avec et tout. Et ben en fait les profs, les personnes d'administration, en fait ça leur a pas du tout plu. Et ils ont commencé à se plaindre, à dire que ça collait pas du tout avec l'image de la République, de machin, blablabla. Bref, on a commencé à avoir de la pression de la part de l'administration. Du coup, c'est remonté jusqu'à certains parents d'élèves qui ont pas du tout envie de voir ça dans le lycée où leurs enfants vont, blablabla. Enfin, elles se sont mises à nous convoquer tout le temps. Constamment, c'est-à-dire qu'elle venait nous chercher en cours, elle venait nous chercher quand on était à la récré, enfin, en tout cas, elle venait constamment parasiter des moments, juste pour nous mettre la pression, en fait, quoi. Nous tirer par les habits pour nous montrer, nous dire devant tout le monde, voilà, on vous a dit que ça, c'était moche, il y a des trucs vraiment... Ouais, franchement, c'était vraiment hyper violent. Dans leur tête, elles allaient nous faire craquer, et en fait, on allait s'habiller autrement. Et au final, effectivement, on a craqué. Ma sœur, elle est partie beaucoup plus tôt, parce qu'elle a eu 16 ans plus tôt que moi, avant moi. Et du coup, moi, je suis restée encore quelques mois, et après, je me suis mise en cours par correspondance. Là, c'est la fac. J'ai enfin réussi à avoir ce bac, après moult galères et tout, machin. À la base, je voulais faire de l'arabe. Il n'y avait pas ça, en fait, à Nice. Du coup, j'ai vu ethnologie, et je me suis dit, bon, vas-y, ça a l'air cool, j'ai rien à perdre en fait, tu vois. Et j'ai envie d'essayer, enfin juste j'ai envie de m'ouvrir à des nouveaux trucs aussi. Enfin, je me suis dit que j'allais commencer tranquille aussi, parce que ça faisait 4 ans que j'avais pas eu de sociabilité, ou très 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 peu. Du coup, je me suis dit fac de lettres, ça a l'air un petit peu plus cool, sympa. Et ça a été genre la grosse révélation de ma vie, quoi. C'est là en fait que j'ai commencé à me dire, voilà, il y a les façons d'imaginer les choses, de penser les choses, Pour moi, c'est ce qui a commencé à m'ouvrir vers ce savoir qu'il y avait des gens qui vivaient quand même d'une manière différente, qui avaient une dimension politique, en fait, aussi à l'agricole et à la campagne. J'ai rencontré Romain, mon compagnon. Lui, il a toujours voulu vivre à la campagne à un moment dans sa vie aussi. C'est quelqu'un qui est formé politiquement depuis très jeune, quoi. Et il y avait toutes ces questions-là de terre, notamment, avec le mouvement zapatiste. Moi, pour moi, c'était un truc complètement nouveau et fou. Et enfin, comment des gens, ils luttent autour de ces questions-là. Donc, en parallèle, j'ai rencontré des gens qui faisaient partie de la CAIAS. C'est un collectif qui s'est formé avec des gens qui, en gros, travaillent la terre, mais pas pour en vivre. Et du coup, ils ont des parcelles, quoi, qu'on leur met à disposition pour faire de la bouffe à destination de cantines de soutien, notamment de ville, quoi. C'était très droit, c'était très juste comme dynamique, quoi. C'est pas des gens qui posent ça en modèle en disant voilà, c'est hyper chouette, tout le monde peut faire ça. Et après, je suis partie du coup à Marseille. Et là, j'ai fait l'arabe, langue, littérature, civilisation et tout. Ça se passait pas hyper bien. C'était hyper islamophobe. Les gens qui tiennent des places en fait très hautes, en fait, c'est des gens qui ont du pouvoir. Et les gens qui ont du pouvoir, déjà, c'est pas des personnes minorisées en France. C'est des gens qui ont une vision hyper orientaliste, tu vois, de ce que c'est que l'arabe, le machin. Une vision comment dire, la vision de la civilisation. Voilà, qu'est-ce que c'est que quelqu'un de civilisé, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui n'est pas civilisé. Il y a l'arabe, la langue, la culture, le machin, etc., qui est merveilleux, qui a apporté des choses à la civilisation. Et il y a tous les autres, tous les trucs qui gravitent autour de ces questions-là, tu vois. Et clairement, quelqu'un qui est religieux, c'est quelqu'un qui n'est pas civilisé. Voilà. Des profs disaient non, mais en fait, enfin, faut être réaliste, quoi. Sur le pays où on est, vous pourrez jamais choisir ni l'administratif, ni la traduction ou machin, parce que, en fait, personne vous prendra jamais, quoi. Bah, de toute façon, c'est décomplexé. Enfin, tu vois, il y a aucune raison de pas être décomplexé, en fait, sur ce truc-là, tu vois. Il y a pas de perspective, en fait. On le sait, quoi. En fait, tu peux t'accrocher et tu peux être la personne qui va percer là où personne perce, tu vois. Ça se peut. Mais moi, je me suis dit, je vais pas, en fait, passer 6 ans, 8 ans de ma vie, en fait, pour un truc où, au final, enfin, je veux dire, il y aura rien, quoi.
La loi dite laïcité interdit dans les écoles, collèges et lycées publics le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent une appartenance religieuse. 20 ans plus tard, bilan. Cette législation, complétée par d'autres, a mené à la marginalisation de nombreux élèves musulmanes. Dans son prolongement, la loi El Khomri de 2016 autorise les entreprises à inscrire l'interdiction du foulard dans leur règlement intérieur. Très tôt privées de ce qui compose un parcours scolaire classique, celles qui portent le voile sont ensuite discriminées sur le marché de l'emploi.
Et à partir de là, je me suis dit qu'il fallait fallait réfléchir à comment survivre aussi, quoi, tu vois. Et ce truc-là de l'agricole, en fait, ça m'a dit waouh, en fait. Il y a moyen de faire un truc qui correspond à ta classe, en fait, tout simplement, tu vois. Le travail où tu utilises principalement ton corps, où c'est ton outil principal, en fait, pour moi, c'est un travail de pauvre, tu vois. Genre faire du ménage, travailler la terre, tous ces trucs-là, quoi. Et que ce soit ouvrier agricole, je veux dire, ou petit agriculteur, tu vois. Là, je suis pas en train de parler de quelqu'un, tu vois, qui sort jamais, de sa machine, tu vois, et qui fait taffer toutes les autres petites mains, tu vois, sur les tâches ingrates de merde, en fait. La base du privilège, quoi, c'est la bouffe, en fait. Pour moi, c'est un des trucs d'injustice premier, quoi. Tous les pauvres, ils mangent méga mal. Il y a cet endroit-là, du coup, un truc qui est très personnel, tu vois, dans son corps et tout ça. Et la question de la terre, tu vois, et de qu'est-ce qu'on fait avec la terre, à qui elle est, à qui elle appartient, comment, en fait, en se mettant pas aussi à des endroits, en fait, on les laisse, en fait, à d'autres gens qui prennent le dessus. Enfin, c'est encore un endroit de domination, quoi, tu vois. En tout cas, c'est une dimension que j'avais jamais pensée. Parce que je viens de la ville, parce que de toute façon, on n'a jamais été propriétaire. Alors, avoir un bout de terre agricole, c'était même pas pensable. C'est un peu comme pour mes parents, le truc de la bouffe, avoir accès à de la bonne bouffe. Quand t'es dans l'urgence, quand t'as pas de thunes, quand tu sais que t'auras jamais accès à ces trucs-là, quoi. C'est une dimension qui est absolument étrangère, tu vois. Et tranquillement, en tout cas, j'ai commencé à découvrir un peu que, bah, en fait, ouais. Certes, ça fait pas tout, mais il y a des gens qui arrivent à s'installer sur des petites surfaces, à sauver en quelque sorte, en fait, des bouts de terre agricole, ce qui est hyper important, en fait, pour moi, quoi.
Après la fac, Imen et Romain enchaînent les boulots alimentaires, faute de mieux. Ils deviennent parents et l'idée de quitter le salariat précaire pour mener ensemble un projet agricole fait son chemin. Imen suit alors pendant un an un BPREA, brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole, pour devenir chef d'exploitation. Elle enchaîne avec ses premières expériences dans le monde agricole, en région PACA.
Le premier stage que j'ai fait en tout premier, c'était une nana qui bossait toute seule. Elle c'était tout petit, elle faisait un petit chiffre d'affaires et je trouvais ça hyper chouette. Et elle vendait quoi aux particuliers. Et au début, j'avais un peu le fantasme de ce truc-là, de me dire ouais, c'est quand même cool. Enfin, tu vois, t'es pas complètement esclave aussi de ton, enfin, tu vois, de ton exploitation, ton petit travail, enfin, tu vois, et tout ça, parce qu'elle, elle prenait l'été notamment. J'avais pas autant conscience que le patrimoine financier et foncier, en fait, tu vois, des gens, ça jouait énormément sur leur façon de s'installer. Et au début, moi, je voyais pas trop ce truc-là. En me disant, non, mais en fait, c'est cool, enfin, tu vois, ça demande pas trop d'investissement, nanana, enfin, tu vois, tu peux t'installer comme ça, gagner juste un RSA parce que c'était aussi ça. Et en fait, non, la personne gagne un RSA, mais elle sait pertinemment qu'à sa vieillesse, en fait, elle aura une maison. Et qu'en fait, elle sera pas locataire toute sa vie et que, enfin, tu vois, il y a quand même des dimensions hyper importantes, en fait. En fait, être clair avec ça, mais pas faire genre, tu vois. En fait, c'est romantiser l'agricole. Et encore une fois, pour qui ça va être fatal, en fait. Moi, c'est clair, si je savais que dans 20-30 ans, j'allais hériter, j'aurais pas du tout le même rapport, en fait, tu vois, à l'installation agricole, à la peur de m'installer, enfin, tu vois. Et en fait, la plupart des gens qui te vendent ces trucs-là, ils savent qu'ils ont, en fait, à un moment, au bout, ils auront quelque chose. Alors, ouais, moi, en tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est que depuis le début, le projet agricole, c'est avec Romain. On l'a pensé ensemble, enfin, tu vois, même si c'est moi qui ai fait la formation, c'est moi qui ai fait le plus gros des stages et tout, on s'est dit qu'on allait s'installer ensemble. Déjà parce que c'est clair, c'est mon meilleur allié, tu vois. C'est hyper reposant, là où tout est hyper fatigant. Je vais pas en plus faire un truc collectif avec des gens qui sont pas du tout au courant, parce que c'est aussi ça, tu vois. Enfin, bah, dans un des stages que j'ai fait, j'ai fait un marché. On est sur le marché. Il y a un homme, tu vois, qui, bah, je dis bonjour parce que mes deux autres collègues sont occupés. Je dis bonjour, je peux vous aider, machin. Le type me tourne le dos sans me répondre et tout. Et je vois bien le mépris. Enfin, tu vois, c'était pas un mec qui m'avait pas entendu. Du coup, je me dis, lui, je le lâcherai pas. J'insiste, je me mets de l'autre côté, je me mets devant lui. Je dis bonjour, vous avez besoin de quelque chose. Et le type me retourne le dos. Du coup, je lui refais le truc là, une troisième fois, tu vois. Et là, il y a ma pote, enfin, l'autre stagiaire qui est une amie, tu vois, qui a fini avec sa cliente d'avant, et du coup il va la voir, tu vois, il lui dit mais elle comprend pas celle-là, que j'ai pas envie de parler avec elle, que je ne veux pas, je ne veux rien d'elle. Et ma pote, elle pète un plomb, elle lui dit mais cassez-vous, moi je vous servirai pas, enfin tu vois, en fait si vous voulez pas vous faire servir par elle, en fait il y a personne qui vous servira ici. Et ma patronne, enfin tu vois, ma maîtresse de stage, elle a même pas capté. Et du coup, et je lui expliquais, elle m'a dit oh là là, il y a des gens, ils sont vraiment cons, hein. Bah oui, vous avez bien fait de pas le servir, vous auriez dû me le renvoyer à moi, tu vois. Et j'étais là, mais en fait, enfin, ça m'outre, tu vois, je suis outrée. En fait, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on réagit, en fait, à une agression, parce que là, c'est une agression. C'est, en fait, de me demander si ça va, si je me sens encore de rester là, de me dire que, ouais, en fait, moi, je suis là, et la prochaine fois, s'il se passe un truc comme ça, tu me le renvoies, et moi, je m'en occupe, enfin, tu vois, juste des trucs de base. Et vraiment, enfin, je me suis dit, mais comment tu captes pas, tu vois, ces trucs-là?
Voir le monde brûler, crier justice. L'enfant dans le ventre de sa mère avant d'arriver au monde qui crie justice. Les dents des pauvres qui crient justice. La vieillesse seule sur un banc qui crie justice. Les amis qui crient justice main dans la main. Les vieilles amies qui crient justice main dans la main. L'animal condamné avant de venir au monde qui crie justice. Les tentes peuplées qui crient justice. Le bateau vide sur la mer qui crie justice. Les oiseaux qui crient justice. les enfants au milieu des forêts de pieds de géants qui crient justice. Les clés qui ne retrouveront jamais de maisons qui crient justice. Des maisons détruites. Et leurs occupants qui crient justice. La Palestine. L'amour qui crie justice. Quand on est coincé dans une toile d'araignée, on crie justice.
Je pense que j'ai grandi dans la région la plus dure au niveau de l'islamophobie, du racisme et tout. Peu importe où je vais, tu vois. Je veux dire, ça peut pas être pire de toute façon, donc on verra, on tente, et on verra bien ce que ça donne, quoi. Et du coup, on est parti en Aveyron. On est arrivé sur le bassin de Decazeville. On a regardé un peu, en fait, là-bas, les terres étaient accessibles. Tu vois, vraiment, hein, par des biais tout à fait classiques de Le Bon Coin, de checker un peu à la Safer comment c'était, enfin, des trucs un peu comme ça. Et on avait vu qu'il y avait des terres et des maisons qui se vendaient pas trop chères sur le bassin de Decazeville. Et il y avait des loyers qui étaient pas chers. Du coup, on s'est dit, de toute façon, faut qu'on arrive dans un coin où on est sûr de payer le loyer le temps de trouver un taf si on n'arrive pas à trouver un taf tout de suite. Et on s'est installé là-bas. Pour moi, c'était hyper exotique parce que du coup, j'ai jamais vu, tu vois, des endroits où il y avait, tu sais, une culture ouvrière, enfin, tu vois, et tout ça. Et une trace plutôt, tu vois, une trace vraiment de cet ancien monde ouvrier, tu vois, et tout ça. On a postulé tous les deux pour des trucs. Moi, forcément, pour les tafs où je savais que je pouvais être prise parce que tout ce qui est magasin, machin, enfin, tout ça, c'était mort. Du ménage, enfin, tu vois, dans des usines ou des trucs comme ça. Je me fais recal, tu vois. Et du coup, Romain, il trouve du taf dans la restauration. Donc, moi, je me retrouve à devoir garder mon enfant. On commence à se rendre compte aussi de la réalité du territoire. C'est un ancien bassin minier. Ancien bassin minier, ça veut dire grosse pollution des sols avec des métaux lourds. Mais c'est un gros tabou sur le bassin de Decazeville, cette question-là. Vraiment, personne n'en parle, personne le dit. Ma nounou, qui elle aimait pas beaucoup le bassin de Decazeville, même si elle était issue d'ici. Elle me disait non, mais de toute façon, là, si vous vous installez sur Decazeville ou sur Robin, personne vous achètera rien. Tout le monde sait que les sols sont pourris et tout, tu vois. Et en même temps, quand t'en parles frontalement avec les gens, ils sont là, non, pas du tout. Ils ont tout le monde a des jardins. Tout le monde a des potagers. Enfin, c'est pas viable du tout, quoi. Tu vois? Et bref. Et du coup, on a commencé aussi à se rendre compte de ce truc-là et de comprendre aussi pourquoi c'était si peu cher, en fait. C'est un peu la sale période de notre vie où il s'est passé plein de trucs pas chouettes aussi dans le personnel et tout, machin. Enfin, bon, bref, on est en mode survie de ouf. Genre, faut déjà qu'on arrive juste à rester vivant un peu. C'est une pote de Marseille, je lui dis ouais, c'est trop, c'est la galère de ouf ici, je rencontre personne, j'arrive pas à avancer sur mon projet agricole, enfin sur notre projet agricole et tout. Et elle me dit en Aveyron, moi j'ai une pote qui fait de la pépinière d'arbres et du maraîchage, machin. Et j'avoue, ça a été le gros coup de cœur, quoi. Moi, du coup, dans la première année, je rencontre Jonia du Prégrand. Et du coup, je rencontre le Prégrand. C'est une ferme, c'est collective, trop chouette. Enfin, en tout cas, qui sont grave impressionnantes et tout ça. Du coup, en tout cas, moi, ça m'a fait un truc un peu de waouh. En fait, genre, il y a ça dans ce coin-là, tu vois, où elles organisent aussi des trucs en dehors de l'agricole, où ça a l'air d'être tellement plus vivant. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, il y a des gens à 45 minutes de là qui ont envie de s'organiser pour des trucs. Enfin, tu vois, qui s'organisent pour des trucs et qui font des trucs et tout. C'est des meufs qui sont pas mères, mais qui sont hyper sensible au fait que quand t'es mère, genre, tu galères encore plus avec la sociabilité et tout ça, tu vois. Et bref, en tout cas, ça a ouvert un truc pour moi, tu vois. Avec Jonia, du coup, on s'est revus très souvent. Elle est venue pas mal à la maison. Nous, on est partis pas mal aussi au Prégrand. On a commencé avec Romain à se dire, en vrai, ce serait méga chouette de s'installer plutôt vers là-bas. On a commencé à rencontrer des gens plutôt par ici et tout ça. Enfin, après avoir cherché longtemps, on a trouvé ce truc-là, ce trois pièces, et on s'est dit, bon, vas-y, on s'installe là et on verra, tu vois, ce qu'on fait. Thank you.
Imen déménage donc une deuxième fois pour se rapprocher du pré grand et de ces nouvelles personnes qui pourraient bien l'aider à avancer dans son projet agricole. Elle se lie d'amitié en particulier avec Jonia. Jonia, dont nous vous avons déjà parlé au tout début de l'épisode, à propos de cette maison qu'elles viennent d'acheter ensemble au printemps. Quand elles se rencontrent, Jonia est déjà installée comme maraîchère bio sur la ferme avec deux autres agricultrices. Elle propose à Imen de l'embaucher ponctuellement comme salariée agricole. Imen et Jonia vont alors tenter de s'accompagner dans leur parcours d'agricultrice mais aussi d'habitante, sans fermer les yeux sur leurs différences de statut social et en essayant au contraire de faire de cette amitié un espace de lutte et de solidarité politique. Alors pour cette dernière partie, on a souhaité revenir sur cette amitié, parce qu'à nos yeux elle est inspirante. Et on a souhaité entendre Jonia nous en parler depuis sa perspective.
Ça va, Jojo ?
Ouais, ça va.
Tu dis si...
Oui, grave, on peut échanger aussi à un moment. Jonia, oui. Si tu veux.
Oui, carrément, on pourra faire ça à un moment. Là, ça va
pas. Pas être dans une position de merde.
C'est hier et avant-hier, j'ai peiné du dos un peu, là.
Ah ouais.
Sur quoi ?
Le gourmandage, je trouve que c'est très demandant.
Ah bah oui, t'es...
Le quoi, t'as dit, pardon ?
Le gourmandage.
Ah oui. Tu sais, là, ouais. C'est hyper demandant. Agathe, elle faisait ça parce qu'elle est plus grande, elle atteint mieux les...
Ouais.
Elle a un foie et moi j'ai fait toute la serre et...
Waouh.
Et quand même tu te lèves et tu te baisses ça quand même assez souvent.
Ouais, c'est clair.
Et la récolte, quand même ça faisait longtemps que j'avais pas fait la récolte toute seule. Hier, pareil, j'ai pensé à toi Agathe, je me suis dit « Ah mais Agathe, elle a mal au dos, c'est pas pour rien, la récolte c'est quand même très demandant au niveau du dos quoi. »
Si tu veux qu'on échange aussi, c'est possible.
Mais ça me va. Là, j'ai chopé le coup de main, tu vois.
C'est vrai qu'il est super, cet escabeau.
Attends.
Ouais, tu peux le régler.
Ah, c'est hyper bizarre de s'entendre. De quoi ?
Que
quoi ?
Pas le casque, du coup.
Non, pas tout de suite, en tout cas.
Tu veux toi,
Imen ?
Vas-y.
Je l'avais écrit après ton stand sur le au festival où ça s'était très mal passé, où tu avais subi des agressions sexistes et racistes. Racisme, haine de l'autre, de l'altérité, simplification de l'autre. Je suis une personne, un membre de la communauté, une individu de cette société. Je suis une nationale, française née à l'étranger, un foyer. Avec mes autres cohabitantes, une habitante, une exploitante agricole, une BAC plus 3, une héritière, une rurale, une citadine native, une unité, une concitoyenne, un suffrage quand je vote, une particule, une poussière, une hôte, une accueillie, une amie, une pote, une ancienne amoureuse, une future amoureuse, une quarantenaire, nulle part, passe-partout, une sœur, une fille, une privilégiée, de haut en bas. Réalité décalée. Il y a des choses visibles, d'autres qui ne le sont pas. Ce que c'est au quotidien, d'être noir, je ne le vivrai jamais. Ce que ça fait au quotidien de porter un voile non plus. L'autre est un trésor. Ce qu'il peut m'apporter de son regard sur le monde forcément différent est un trésor. Un trésor, on doit l'approcher avec douceur, avec précaution. On ne pense pas à sa place, on écoute son visage, sa posture, les battements de ses cils, ses paroles, celles qui disent non, celles qui disent oui. Si tu ne sais pas ce que l'autre ressent, demande-lui et accepte sa réponse. Si tu penses à la place de l'autre, je te dirai non. Si tu n'écoutes pas le nom de l'autre, je te repousserai avec mes mots et mon corps. Si tu insistes, si tu simplifies l'autre et que j'en suis témoin, je réagirai. Tout vaut mieux que le silence. Ne laisse pas l'autre seul face à la majorité. Pas à pas, pied à pied, gagner sur l'impunité. Le racisme est un système qui vit à l'intérieur de nous.
Ouais, c'est plein de fillons.
Enfin, ça lui fait même de la pub. Là, le fillon. C'est pas mieux. Hein. Sarkozy.
Retour à la terre. Lieu agroécologique. Installation collective à la campagne. Autant de modèles qui, depuis quelques années, connaissent un intérêt grandissant. Mais qui a les moyens de ces imaginaires politiques-là ? La revendication de ces modes de vie, prenés parfois avec évidence comme le bon choix, nous semble faire l'impasse sur certaines réalités sociales. Avant de repartir, nous proposons à Imen et Jonia de se retrouver au café du village pour qu'elles nous partagent leurs réflexions sur ces sujets.
Est-ce que toi, tu veux le formuler ou...
Non, je veux bien que tu le fasses.
Ouais. Allez, j'y vais. Alors, on aimerait bien causer ensemble du fait que... Est-ce que les lieux collectifs, alternatifs en ruralité sont des portes d'entrée ou des moyens d'accès à des activités agricoles ou des artisanales ou autres, ou des activités en campagne.
Pour tout le monde.
Pour tout le monde, quoi.
Parce que ça peut l'être pour certaines catégories de personnes, mais en fait, et en apparence pour tout le monde, mais en fait, pas du tout, quoi.
Mmh. Oui, carrément.
J'ai répondu tout de suite.
Mais c'est super. C'est super. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression que souvent, ces lieux collectifs, ils sont achetés par des personnes qui ont du capital à la base. Enfin, souvent par des personnes non issues du milieu rural qui viennent à la campagne et qui ont un projet comme ça d'installation et d'achat parce qu'il y a un capital, la plupart du temps, en fait, hérité, parce que si c'est des personnes jeunes, en plus, elles n'ont pas forcément eu le temps d'avoir un travail.
Ouais. Après, il y a des gens qui ont travaillé aussi. Mais du coup, qui ont un héritage aussi culturel qui a fait qu'en fait, ils ont pu avoir des tafs méga bien payés et qu'ils ont ce luxe, quoi, de pouvoir se dire c'est terminé cette vie-là, on se reconvertit, machin, à 40 ans, parce qu'ils ont réussi à faire de la thune. Mais ça aussi, c'est c'est une base d'inégalité de ouf. Oui, du coup, c'est ça qui est questionné.
En tout cas, c'est ça la définition pour nous. On s'est c'est dit ça. De l'héritage, c'était de l'argent ou un bien pour lequel t'as rien fait.
Mmh. Et toi, Jonia, du coup, comment tu vis ça, le fait d'avoir un héritage ? Comment t'en es venue à avoir envie de partager ces questions ?
Ça a été long. Enfin, je me rends compte, quand même, ça fait depuis mes 20 ans, là j'ai bientôt 40, que disons que j'ai... accès à une politisation un peu fine, avec des documents, des écrits et tout ça, qui parlent de ces questions de classe, de privilèges économiques, matériels et tout ça. Je pense que ce groupe héritage, et ça nourrit le fait de... Du coup, nous, on avait acheté cette maison avec Jeanne grâce à des héritages de nos familles. Et la conscience que c'était pas quelque chose de forcément partagé comme réalité. C'est chaud. Et ce groupe, nous en a fait d'autant plus prendre conscience. Et donc, à un moment, quand on s'est dit, à deux, là, c'est trop grand, ces logements, ça correspond pas forcément à ce qu'on... à ce dont on a besoin comme surface et tout ça, et qu'on a s'est dit alors on peut diviser en trois plutôt, ou faire trois appartements dans cette maison.
Et que, enfin, tu vois, peut-être ça veut pas dire la même chose aussi pour nous, la propriété, tu vois. Moi, la propriété, c'est plutôt un truc, enfin, aussi, j'imagine, pour m'enraciner quelque part, me poser, avoir un truc où je suis sûre de rester là. Enfin, en fait, j'en ai marre de bouger, tu vois. Et peut-être pour Julien, c'est pas la même chose, enfin, tu vois. Même si j'espère qu'on sera voisines pour la vie entière. Parce qu'avec Jonia, quand même, on se côtoie assez intensément, en vrai, quand même, depuis qu'on se connaît. Et la question d'héritage, je crois que c'est un des premiers trucs dont on a parlé aussi, tu vois. De se dire, on a envie de réfléchir dessus en n'ayant pas de tabou, tu vois. Moi, en fait, ça me dérange pas, les trucs d'interdépendance, tu vois. J'ai ce truc-là avec Romain, tu vois, de par ses privilèges à lui et pas les miens. Et pourtant, je considère pas du tout que c'est déséquilibré, tu vois, comme relation. Enfin, la plupart du temps,
en fait, dans mes relations intimes et personnelles et machin, en fait, c'est très souvent déséquilibré. À part quand j'ai une pote qui porte le voile, qui est pauvre et qui est issue d'une famille maghrébine et machin, enfin tu vois, et qui a pas de taf et tout ça. Enfin, je veux dire, il y a que dans ces moments-là où ça peut rivaliser. Et je suis très contente de pas avoir que des potes dans la dèche, en vrai, enfin, et constamment dans la dèche. Enfin, je veux dire, c'est trop chouette. Qu'est-ce que c'est, t'en penses, Julia?
Je sais que l'accès à la ruralité, ça a été très important dans ma vie. C'est un endroit d'aller conquérir de la liberté et tout ça. Et que du coup, c'est un truc... ça vient nourrir un besoin de sens, quoi. Enfin, ça a du sens pour moi de travailler à l'accès de la ruralité, parce que pour moi, c'est un espace de liberté dans ce monde-là. Et du coup, c'est hyper important, quoi. Ouais.
Quand les femmes s'engagent activement dans une compréhension réellement soutenante de nos différences, afin de corriger nos visions faussées et mal avisées, nous posons les bases nécessaires à l'expérience de la solidarité politique. La solidarité, ce n'est pas la même chose que le soutien.
Nous posons les bases nécessaires à l'expérience de la solidarité politique. Pour vivre la solidarité, nous devons avoir une communauté d'intérêts, de convictions partagées et d'objectifs autour desquels nous rassembler pour construire la sororité. Le soutien peut être quelque chose de ponctuel. On peut le retirer aussi facilement que le donner. La solidarité nécessite un engagement continu et durable.
Si nous voulons qu'il s'étende, le mouvement féministe a besoin de diversité, de désaccords et de différences.
De la marge au centre. Bellux.
En attendant une réforme en profondeur de la taxation sur l'héritage, qui ne verra certainement pas le jour sous ce gouvernement, on peut tenter, au sein de réseaux locaux ou affinitaires, de faire famille autrement, de construire des modèles de redistribution plus justes et d'accès à la propriété collective, à nos échelles. Jonia, Imen et une dizaine d'autres personnes ont créé un groupe de travail héritage sur leur territoire. On vous lit le mail de nouvelles qu'elles nous ont envoyées alors que nous bouclons cet épisode.
Après plus de 2 ans de réunions régulières, nous avançons doucement dans la mise en place d'une caisse de mutualisation. Dans le groupe, il y a des personnes héritières et d'autres pas. Et aussi des personnes qui ne savent pas si elles auront un héritage. En ce moment, on en est à faire des simulations. Pour ça, on s'inspire de la caisse de mutuelle Transpédéguine Paname et la mutuelle de Lyon. Notre idée, c'est de cotiser tous les mois sur un pourcentage de la somme qu'on a héritée. En parallèle, on continue à se raconter sur notre rapport à l'argent, en partageant des bouts de nos histoires familiales et personnelles. On cherche à faire exister dans tous les espaces de nos vies cette question des réalités et conséquences des héritages.
Ainsi, les réflexions avancent et les travaux de leur maison avancent eux aussi. Le projet de pépinière d'Imen et Romain, quant à lui, est toujours en suspens. S'ils se concrétisent, comment trouveront-ils des terres? Qui voudra bien leur en céder? Comme elle en témoignait au début de cet épisode, Imen misera certainement sur le bouche à oreille, sur les amis agriculteurs et agricultrices et sur les complicités locales. Pas vraiment d'autre choix. Mais la perspective d'une extrême droite au pouvoir rend l'espoir difficile. Le projet du RN d'exclure les binationaux de certains postes à responsabilité et d'interdire l'espace public aux femmes portant le voile, menace plus que jamais ses droits politiques, et plus globalement, son droit à exister. Merci Imen pour ta confiance, tes rires, et les espaces de remise en question que tu as ouverts chez nous. Merci aussi pour ta linogravure qui a illustré cet épisode. Merci à Jonia, merci beaucoup aux amis du Pré-Grand pour l'accueil et l'accompagnement chaleureux. Vous trouverez des contacts, des ressources et toutes les références qui ont nourri cet épisode sur le site de Blast à la rubrique podcast Manuel des Terres. N'hésitez pas à organiser des écoutes collectives, à partager cet épisode que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur l'application Blast. Allez,
salut!
Désolé, mais ils ont creusé un crasse trou noir infini. Et infini à des millions moi dessous. Je reste assis seul à genoux en répétant ça va, ça va, ça va, ça va. Jusqu'à ce qu'arrive la bande, les sons des terres du dessous. Salut, nous sommes la bande, le club, le gang qui reprend tout. Nous allons renverser l'exemple, comment on vit là en dessous. Tenez, voici le manuel des terres pour toutes.
On se retrouve dans 2 mois pour le 3e épisode. Cette fois, c'est Marie qui se racontera à nos micros. Marie est une jeune retraitée, une femme du coin, qui a épousé un agriculteur et est restée vivre dans sa campagne de l'Ouest. Elle nous racontera la difficulté à se revendiquer agricultrice et comment et avec qui elle a tenté de dépasser la honte et le mépris. À travers son histoire, nous suivrons aussi celle d'une ferme familiale, conventionnelle, classique, poussée par l'époque à s'agrandir et qui se retrouve dans de lourdes difficultés économiques. Rendez-vous le 2 février.